Bonjour à tous et à toutes. Nous venons de chanter Cantique à la louange de Dieu. Vous avez remarqué qu'il parle de la création de Dieu, il parle dans le cantique, c'est mentionné le psaume 104. Il parle de la grandeur de la création de Dieu. Et justement, ça m'emmène au sujet de mon sermon aujourd'hui. La grandeur de Dieu. C'est dans Psaume 104 que nous trouvons l'expression Tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Et donc, j'ai voulu montrer certains aspects de la grandeur de Dieu. Et on va commencer avec la magnificence ou la majesté, si vous voulez, la majesté de Dieu. Et nous allons commencer avec Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel chapitre 1 parle des quatre animaux qui, pour nous, sont certainement étranges, mais magnifiques. Ce sont des visions divines. Et nous allons commencer avec Ézéchiel chapitre 1, le verset 22. Ézéchiel venait de parler donc de ces quatre animaux. Verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Donc, au-dessus, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Le Martin parle d'un semblable à un cristal étincelant. Déjà, le cristal est précieux, c'est quelque chose de très beau. Il parle d'un cristal étincelant et terrible à voir. Et puis Jean, quand il décrit le trône de Dieu dans Apocalypse 4, dit ceci, devant le trône, comme un mer de verre semblable à du cristal. Les deux passages se regroupent. D'autant plus que vous pouvez aussi regarder dans Exode à propos de Sinaï, quand ils étaient au Sinaï, Dieu a dit à Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, avec 70 anciens d'Israël, et je cite, c'est quand ils sont allés en rencontre de Dieu, justement, que, je cite, sur ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il y a donc cette image qui regroupe, qui est en parallèle, si vous voulez, avec ce que nous venons de voir dans Ézéchiel. Et peut-être le trône de saphir était reflété justement dans le cristal. Le verset 26, Ézéchiel chapitre 1 et le verset 26. Au-dessous du ciel, qui était sur leur tête, donc il y a les quatre animaux, il y a ciel sur leur tête et au-dessous encore. Au-dessous du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. Donc ce saphir peut-être qui se reflétait dans le cristal. Une pierre de saphir en forme de trône et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessous en haut. Évidemment, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est marqué ici qu'il était semblable. Vous remarquez au passage qu'il s'agit ici de matière noble, une grande valeur, pierre précieuse. J'ai noté ceci dans cette publicité à propos d'un saphir, un saphir bleu. Évidemment, c'était pour le vendre, mais c'était intéressant quand même par rapport à ce que nous venons de lire. Le saphir bleu est une pierre gemme particulière pouvant accompagner à la fois les cheveux clairs ou foncés et s'harmoniser avec tous les styles. Il peut répandre son éclat sur tous les types de peau et mettre en valeur la beauté naturelle de chaque femme et le charisme de chaque homme. Bon, évidemment, c'est une publicité, mais ça nous donne une idée quand même de la valeur, de la noblesse de la matière. Il s'agit ici du trône de Dieu, de la majesté de Dieu. Verset 27. Je vis encore comme de l'air impoli, comme du feu au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Darby parle de l'airain luisant et il y a un rabbin qui parle de puissance de feu. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a beaucoup de lumière, c'est baigné dans la lumière, Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et si nous regardons Ézéchiel chapitre 8 et le verset 2, nous voyons la distinction qui est faite en parallèle avec le verset Ézéchiel 1 et le verset 27. Donc Ézéchiel chapitre 8 maintenant et le verset 2, je regardais. Et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, toujours la même image, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Mais beaucoup de lumière, beaucoup de brillance, si vous voulez, dans Apocalypse. Puisque ces passages sont en parallèle, je n'y rapporte pas, je vous le cite, Apocalypse chapitre 1, verset 14. Apocalypse chapitre 1, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage, donc le visage de ce que nous voyons dans Apocalypse 1, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. On peut difficilement regarder le soleil quand il brille dans sa force. Quelque chose de rayonnant, une gloire rayonnante, une superbe gloire rayonnante, on peut dire. C'est comme un arc-en-ciel, c'est ce que nous trouvons dans Ézéchiel chapitre 1, verset 28. Et tout ceci, bien sûr, n'est que, entre guillemets, une vision. C'est pas, nous allons voir Dieu dans toute sa splendeur par la suite, mais ici, c'est une vision. Ézéchiel chapitre 1, verset 28. Ézéchiel 1, 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en jour de pluie, donc on parle de l'arc-en-ciel, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de Dieu. Et il était tellement impressionné par ce que Ézéchiel, par ce qu'il voyait, que nous voyons la fin du verset, à cette vue, je tombais sur ma face et j'entendais la voix de quelqu'un qui parlait. Dans Apocalypse, là, on va s'y rapporter, Apocalypse chapitre 4, verset 3, nous avons un peu plus de précision à propos de cet arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 3. Donc, nous voyons déjà la grandeur de Dieu dans sa majesté. Apocalypse chapitre 4, verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, de nouveau des pierres précieuses qui sont nobles, qui ont de la valeur, l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. L'émeraude qui devait certainement prédominer à ce moment-là. On a beaucoup de plaisir à regarder les arcs-en-ciel. Ici, c'est l'arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu. Devant telle splendeur, Ézéchiel tombe sur sa face. La majesté de Dieu, ça se voit, la grandeur de Dieu, ça se voit dans sa majesté. Il y a un autre aspect, un autre domaine, si vous voulez, où nous voyons, nous pouvons constater la grandeur de Dieu, sa force, sa majesté aussi, c'est sa création. Et là, nous allons regarder Psaume 104, auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Psaume 104, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est ce que nous venons de voir. Mais comment est-ce que Dieu est grand? Pourquoi Dieu est grand? Ce que nous pouvons constater dans la suite de ce chapitre, c'est que celui qui a écrit le psaume exalte la création de Dieu, met en valeur la création de Dieu, les œuvres de Dieu. Et vous pouvez regarder ça à la maison. Mais allons jusqu'au verset 24. Jusqu'au verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Oui, la création, les œuvres de l'Éternel sont en grand nombre. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Et pour préparer ce sermon, j'ai commencé à regarder de plus près, justement, les œuvres de l'Éternel. Parce qu'on peut voir la grandeur de Dieu à travers la beauté de la création, la diversité et les détails. Et nous pouvons reconnaître l'existence de Dieu en devenant tout simplement conscients, en percevant les choses autour de nous. C'est ce que Romains 1 parle de ceci. Donc j'ai fait quelques recherches et je ne sais même pas si ce chiffre maintenant n'est pas périmé. Mais d'après mes recherches, il y a 950 000 espèces d'insectes qui ont été découvertes. 950 000 espèces d'insectes, mais seulement on n'a pas tout découvert, et au moins s'en faut. Et nous estimons, les savants estiment qu'il y a entre 8 millions et 100 millions d'espèces. Je parle uniquement d'espèces. Je parle pas du nombre d'insectes. Je parle uniquement d'espèces. Entre 8 millions et 100 millions d'espèces. Et il y a un commentaire qui a dit ceci. On constate que notre ignorance est grande, mais que l'incertitude sur le nombre d'espèces est très grande également. Et nous voyons les merveilles de Dieu. Il y a même bien sûr, des insectes sociaux, ceux qui se camouflent, les sauteurs, les chanteurs, et ainsi de suite. Et ensuite, quand on regarde de ce qui est vraiment petit, vous avez probablement entendu parler des nanoparticules. Nanomètre, c'est un milliardième d'un mètre. Et l'atome, c'est quelques dixièmes d'un nanomètre. Et on peut aller plus petit, de plus en plus petit, parce que quand on regarde un atome, il y a le noyau. Et quand on parle de noyau, sa taille comparée à celle de l'atome équivaut à un petit pois au pied de la tour Eiffel. Et l'atome est vraiment très, très petit. Le noyau lui-même n'est pas simple. Il se compose de particules appelées nucléons qui se présentent sous forme de protons. Mais les nucléons sont eux-mêmes composés de constituants encore plus élémentaires qu'on appelle des quarks. Donc, on va de plus en plus petit. Revenons à Psaume 104, verset 3. La grandeur de Dieu voit dans la perfection de la création, la perfection de ce qui est très, très, très petit. Psaume 104, et le verset 3. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure, il prend les nuées sur son char, il s'avance sur les ailes du vent, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Toute cette puissance est maîtrisée. Toute cette puissance, Dieu l'utilise. Verset 9. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elle ne revienne plus couvrir la terre, comme lors du déluge. Verset 10. Il conduit les sources dans les torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs et les ânes sauvages y étanchent leur soif. Verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise la nourriture. Et le miracle de la vie, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les animaux, mais aussi en ce qui concerne les plantes, les miracles de la germination. Il y a un ouvrage qui s'appelle « Jardinier paresseux » qui dit ceci, « Par quel miracle une petite graine dure, sèche et apparemment sans vie peut-elle se transformer en une plante vivante ?» L'article dit « C'est bien un miracle. » L'un des miracles les plus impressionnants de toute la nature, parce que c'est Dieu qui a créé. Certains très légers sont équipés de parachutes pour se laisser emporter par le vent. D'autres sont mangés et transportés de cette façon-là. Il y a les graines des plantes aquatiques, des rivages qui utilisent souvent les courants d'eau pour le transport. Elles ont appris à flotter. C'est la personne qui a écrit qui dit ça, qu'elles ont appris à flotter. D'autres plantes s'accrochent à des animaux qui passent. Et certaines plantes utilisent le mimétisme pour se mouvoir. Par exemple, les graines d'une plante ressemblent tellement aux œufs de fourmis que ces dernières les transportent lors de leur déplacement pour qu'ils puissent grandir là où c'était prévu qu'ils grandissent. Il y a même des plantes canons qui lancent leurs graines au loin de façon explosive. Job 36, verset 27. Job parle de la création de Dieu. Élie parle de la création. Dieu lui-même parle de sa création. Dans Job, chapitre 36, et le verset 27. Job 36, verset 27. Il attire à lui les gouttes d'eau. Ceci, c'était avant que les hommes savaient, connaissaient certaines choses. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sur le foule des hommes. Ça, c'est le cycle hydraulique. Les courants d'eau ascendants entraînent la vapeur dans l'atmosphère où les températures plus basses provoquent la condensation de la vapeur en nuée, nuage. Les courants d'air entraînent les nuages autour de la Terre et les particules de nuages se heurtent, s'amoncellent et retombent en tant que précipitation. C'est le cycle hydraulique. Et ensuite, donc ça c'est Élu qui parle, ensuite il y a Dieu lui-même qui parle dans Job chapitre 38 verset 16. Et ici, il y a quelques détails qui sont magnifique parce que c'était écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ, quand les savants, quand la science n'a pas appris ce qu'elle a appris par la suite. Verset 16, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Il parle des sources de la mer. Et nous savons maintenant qu'il y a des sources, en tout cas une source de la mer dans la mer morte, à 30 mètres de profondeur. Il s'agit donc d'eau douce, une source de la mer. Ça existe aussi au Liban. Et en 2003, le monde a écrit ceci. En Méditerranée, jusqu'à proximité des côtes, de nombreuses sources d'eau douce se déversent en mer, ce que les pêcheurs et les marins ont su depuis longtemps observer quand la mer est calme. Des remous apparaissent en surface et le milieu prend des teintes inhabituelles. Bon, autrefois, ils ont essayé de récupérer cette eau. Donc, des sources dans la mer. Et puis, la deuxième partie du verset. Job chapitre 38, verset 16. T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les profondeurs de l'abîme, l'homme n'avait aucun moyen de savoir ce que c'était à l'époque. Mais Dieu savait, c'est Dieu qui l'a créé. et on voit la grandeur de la puissance de Dieu. La force, vous avez peut-être entendu parler de la force des Mariannes, située dans l'océan Pacifique. C'est donc l'endroit le plus profond des océans. On le nomme Challenger Deep, Gulf Challenger, et qui se trouve actuellement, si les mensurations sont correctes, à 10 994 mètres de profondeur. Le mont Everest, pour vous donner une comparaison, est plus de entre 8 et 9 000 mètres de hauteur. Donc, c'est quelque chose qui est plus profond dans les profondeurs de la terre, de la mer, que le mont Everest. Et ce qui est incroyable, c'est les créatures abyssales que nous pouvons trouver, que les êtres humains ont commencé à trouver dans ces profondeurs. Les créatures abyssales sont des êtres qui vivent à une certaine profondeur de l'océan, plus précisément dans les zones abyssales, qui sont des endroits où la lumière, où il n'y a pas de lumière de soleil, ça n'arrive pas, et où la pression peut atteindre 76, enfin ça c'est MPa, ça c'est une mesure de pression. J'ai regardé les créatures d'abysse et j'ai regardé le site Futura Planète. Et il y a des créatures incroyables, quand vous regardez, je crois qu'il y a une quarantaine de photos, ces créatures des abysses que Dieu a créées. Il y a par exemple le poulpe de Beau. Je vous encourage d'aller sur ce site pour vraiment pour les voir, ces photos spectaculaires. Des choses insolites, des choses qu'on n'aurait jamais pas imaginées. Comme par exemple le poulpe Dumbo, qui vit entre 300 et 500 mètres de profondeur. Il y a des montagnes sous-marines, des îlots de diversité. Il y a la méduse casquée, qui vit entre 0 et 7 000 mètres de profondeur. Le mont Everest, comme je dis, c'est plus de 8 000 mètres, c'est 8 849 mètres précisément. Et ils vivent parfois à une pression énorme. Nous savons que lorsqu'on descend dans la mer, la pression augmente. Et par exemple, à 214 mètres de profondeur, ça c'est le record du monde en apnée, la pression est de 22,4 bar. Et ici, on parle d'une pression de 760 bar. Psaume, chapitre 8, verset 9. Dieu qui a tout créé. Psaume, chapitre 8, verset 9. Et il y a un exemple ici de quelqu'un qui, c'est un monsieur qui s'appelait Mathieu Fontaine Maury. C'était un astronome américain, un officier de marine, historien et océanographe. Et il a eu un accident en 1839. Il était sur son lit. Il était croyant. Et il a demandé à sa fille, une de ses filles, de lui lire la Bible. Et elle a lu le psaume 8. Et nous arrivons au psaume chapitre 8, verset 9. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Il a retenu cette expression, les sentiers de la mer, et il s'est décidé de chercher, de trouver ces sentiers de la mer. Nous sommes ici donc au 19e siècle. Il est affecté en 1841 dans le service d'archives de la marine. Il commence à exploiter des documents et il commence à établir des cartes où il voit les courants, les fameux sentiers de la mer, sentiers des mers. Et en 1847, Mathieu publie un recueil d'instructions nautiques. Les premiers utilisateurs réaliseront des traversées records sur le temps de navigation. Pionnier de hydrographie marine, il écrit en 1855 le premier ouvrage sur les courants marins. Il continuera une brillante carrière d'océanographe. Il y a même deux monuments érigés en Virginie pour qui rappellent ses travaux et sa confiance dans l'exactitude de la Bible, parce que tout a commencé quand il a lu la Bible, quand il a lu ce que Dieu avait créé. Il a dit ceci en 1855. Un fleuve traverse l'océan, même lors de la sécheresse la plus intense, il ne fait jamais défaut. Et lors des inondations les plus grandes, il ne déborde jamais. Ses rives et son lit sont faites d'eau froide. Donc c'est bel et bien un sentier. Ses rives et son lit sont faits d'eau froide, tandis que son courant est composé d'eau chaude. Sa source n'est autre que le golfe du Mexique et son embouchure se trouve dans les mers arctiques. Et vous avez deviné qu'il s'agit du Gulf Stream. Il y a d'autres sentiers, il y a le Humboldt, il y a le Kuro-Sibo. Et revenons à Psaume chapitre 8, verset 9, parce qu'il y a encore un détail que nous n'avons pas vu. Nous avons surtout, c'est attardé sur la deuxième partie du verset, mais la première partie du verset dit ceci: les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, comment est-ce que les oiseaux peuvent savoir qu'il y a un sentier? Mais parce que Dieu les a créés ainsi, certains oiseaux, attention. Et j'ai regardé un article dans l'Ouest France. Ouest France, il parle des sternes, du dugong, etc. Sont également présentés la sterne Pierre Garin, la sterne naine et la sterne arctique. La sterne arctique, un bon voilier qui suit les courants marins sur 30 000 kilomètres. Un bon voilier, il suit les courants marins, évidemment. S'il suit les sentiers de la mer, certainement qu'il avait de quoi manger. Pic bleu parle d'habitat durable. Nous habitons, c'est ce que l'article dit, nous habitons un véritable paradis. Nous bénéficions d'une harmonie parfaite, nous habitons un véritable paradis, parfois sans en prendre vraiment conscience, du fait que tout était prévu de la façon parfaite. Et là, il donne dans cet article plusieurs rubriques, plusieurs points par lesquels la Terre est parfaite, justement. La Terre se situe dans notre galaxie, la Voie lactée, une zone habitable, selon les scientifiques, qui concentre les doses parfaites d'éléments chimiques indispensables et nécessaires à la vie. Elle est proche du Soleil, tout est relatif, idéalement à 150 millions de kilomètres. Son orbite pratiquement circulaire permet à la Terre de ne pas geler et de ne pas brûler, tout en bénéficiant de sa lumière et de sa chaleur. Le Soleil, cette étoile très spéciale, comme on appelle ça, est une planète parfaite pour la Terre qui émet une juste quantité d'énergie toujours stable. La création de Dieu, la grandeur de Dieu à travers sa création, la rotation de la Terre, il parle d'autre chose, la rotation de la Terre, les boucliers de protection de la Terre, c'est-à-dire le champ magnétique, l'atmosphère terrestre, la Terre qui assure, l'homme le permet, le recyclage de ses déchets, le cycle naturel de l'eau qui assure la vie, le dioxène et le carbone, le cycle de l'azote. On regarde la création de Dieu et nous voyons la grandeur de Dieu dans sa création. Psaume 93. Ça, c'est donc la création qui demande la grandeur de Dieu. Et là, on n'a fait que toucher certains aspects. Dans Psaume 93, verset 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, les saints de force, ainsi le monde est fermé, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes toute éternité. Dieu habite l'éternité. Tu existes toute l'éternité. Dieu est omnipotent. Dieu est sans limite. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant parce que c'est son caractère. Et on voit donc sa grandeur à travers le fait qu'il soit omnipotent, qu'il est sans limite. Tout lui est possible. En parlant de Christ, Hébreux parle de Christ qui était sans fin de vie. Mais Dieu peut, parce qu'il est Dieu, peut rendre possible ce qui est à nos yeux impossible. Nous avons probablement chacun d'entre nous vu dans notre vie où Dieu a renversé une situation, changé une situation pour que cette situation qui était néfaste pour nous devienne bénéfique pour nous. Psaume 98, verset 41. Le problème avec les enfants d'Israël, un des grands problèmes, c'était le fait qu'ils limitaient Dieu. Psaume 98 et le verset 41. Et je lis ceci dans le Dabi. Psaume 98, verset 41. Et ils recommencèrent et tentèrent. Psaume 78, j'ai dit 98. 78, pardon. Psaume 78, verset 41. Je lis ceci dans le Dabi. Et ils recommencèrent et tentèrent Dieu et affligèrent le Saint d'Israël. Et il y a une petite annotation en bas de Bible d'Arby, où, à la place d'affliger, où limitèrent le Saint d'Israël. Ils limitaient Dieu. Ils limitaient Dieu dans leur esprit, dans leur tête. Et ça, en allant vers la terre promise. Nous aussi, nous allons vers notre terre promise, nous allons vers le royaume, et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aussi limiter Dieu dans notre esprit. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu est tout-puissant, Dieu est omnipotent. Il y a le long jour de Josué, on a parlé de ceci à l'époque, le nombre de miracles qu'il a dû y avoir pour que ceci a pu avoir lieu. Le nombre de miracles. Le Christ a marché sur les eaux. Dieu n'est pas lié comme nous par les mêmes conditions que nous. Dieu a ressuscité des morts. Dieu a ressuscité le Christ. Dieu va ressusciter son peuple lorsqu'il revient. Je vais aller plus loin dans le psaume 78. Je vous lis le verset 42. Donc on vient de voir que ils ont limité le Saint d'Israël, verset 42. Il ne se souvint pas de sa puissance. Sa puissance, le fait qu'il est sans limite, le fait qu'il est omnipotent. Il ne se souvint pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi. Des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il a ouvert la mer Rouge. Inimaginable pour un être humain. Et Dieu fait ce que personne d'autre peut faire parce que Dieu est puissant. Il est tout puissant. Dieu donne des victoires impossibles. Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente. Ils étaient dans une situation impossible. Et suite à ceci, cette intervention, Nebuchadnezzar qui était très très fâché, et ensuite Dieu l'a devenu, et il a dit ceci, il n'y a aucun Dieu, il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui, en parlant de Dieu. Dieu est Dieu. On ne peut pas, il ne faudrait pas limiter Dieu. Et il faut permettre à Dieu, il faudrait permettre à Dieu de travailler pleinement dans nos vies. Parce que quand on la limite, d'une certaine façon, on rejette sa toute-puissance. Le mot omnipotent, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible en français. Je l'ai trouvé une fois en anglais, dans Apocalypse chapitre 19, verset 6. Et normalement, en français, c'est traduit par tout-puissant, tout-puissant. Mais quand j'ai regardé ce mot dans le grec, avec un lexique français qui parlait de grec, il a donné plusieurs définitions. Il a donné d'abord la définition suivante, qui est domination sur toute chose. Et ça ouvre une autre perspective. qui a domination sur toute chose. Toute chose. Dieu est souverain. Dieu règne sur sa création. Il a domination sur toute chose. La deuxième définition qu'il donne, c'est le souverain de tout. Troisième définition, tout puissant. C'est ce que nous venons de voir. Tout puissant, Dieu. Il y a un autre ouvrage qui parle de celui qui gouverne tout. Oui, c'est vrai que Dieu agit. Dieu gouverne sa création. C'est ce que, dans Daniel, Nebuchadnezzar, encore une fois, quand Daniel lui a montré la vision, a interprété la vision, ça c'est quand il était humilié, nous trouvons ceci, dans Daniel chapitre 4, c'est le verset 35 que je cherchais. Daniel chapitre 4, le verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'un néant. Il agit comme lui plaît avec l'armée des cieux. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Dieu est omnipotent. Il fait ce qu'il veut. Dieu est tout puissant. Et aussi, Dieu n'est pas uniquement omnipotent. Dieu est aussi omniprésent. C'est aussi la grandeur de Dieu. Dieu est omniprésent. Et c'est à travers son esprit que Dieu est partout, partout à la fois. Il est omniprésent à travers l'univers. Et il réagit, il intervient selon sa volonté. Nous voyons ceci dans Psaume 139, verset 7. Il y avait une personne qui comprenait bien la puissance de Dieu, c'était David. Dans Psaume 139, et le verset 7. Psaume de David, donc. Et David était conscient que Dieu était partout. Que Dieu était omniprésent. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Autrement dit, des deux extrémités de cet univers. Si je prends les ailes de l'aurore, que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. David était conscient que Dieu était le Dieu suprême. Il était conscient de sa grandeur. La Bible dit que son esprit, dans 1 Corinthiens 2, que son esprit, l'esprit de Dieu, sonde tout. Et c'est marqué dans Matthieu chapitre 6, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Dieu connaît le cœur de tous. Il connaît nos cœurs. Et c'est ce que les apôtres ont demandé à Dieu quand ils ont choisi le remplaçant de Judas. Ils ont dit que toi qui connais le cœur de tous, on est loin d'imaginer toutes les profondeurs, les richesses de Dieu, sa grandeur, et de réfléchir ce qui est derrière. Verset, psaume 139, toujours, verset 1. Dieu est omniscient. Dieu est aussi omniscient. Il sait toutes choses. Psaume 139, et le verset 1. Au chapitre chant de David, psaume, éternel, tu me sens, tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètes de loin ma pensée. C'est pour ça que nous avons tout intérêt d'être honnêtes avec Dieu, parce que Dieu sait toutes choses. Et un jour, nous sommes devant le trône de Dieu, devant le trône de jugement. Éternel, tu me sens et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, mais déjà au éternel, tu la connais entièrement. Il était conscient de la que Dieu était omniscient et que son esprit sondait tout. On est loin d'imaginer toutes les profondeurs de la richesse de Dieu, mais nous pouvons, en regardant la création, réfléchir à ce qui est derrière et constater que Dieu est grand. Face à la grandeur de Dieu qui est immense, qui n'a pas de limite, quelle est notre réaction? On vient de voir le psaume de David, en psaume 139, et on va regarder dans 1 Chronique 28, verset 10. 1 Chronique 28, verset 10. L'attitude, si vous voulez, de David, lui qui a écrit le psaume 139, on voit ici son attitude. Nous avons souvent cité ceci. C'est plutôt la 1 Chronique 29, verset 10. 1 Chronique 29, verset 10. On cite ceci souvent. J'ai souvent parlé pour les offrandes. Mais il n'y a pas que les offrandes, parce que c'est toute son attitude, c'est toute sa façon de penser. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Dieu, l'éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, il avait une idée, une bonne idée, une très bonne idée de la grandeur de Dieu, de la magnificence de Dieu, de qui Dieu était réellement. À toi, Éternel, la grandeur, commence avec la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité, parce que Dieu habite l'éternité, l'éternité et la gloire. Ces cinq adjectifs sont très forts, résument, si vous voulez, qui est Dieu. La grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Dieu est souverain. Dieu est maître suprême. Dieu règne souverainement au-dessus de sa création. À toi, éternel, la reine, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi, verset 12, c'est de toi qui viennent les richesses, la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dieu était le maître suprême. Dieu est le maître suprême. C'est bien marqué là. Toutes choses. D'affermir, d'agrandir, d'affermir toutes choses. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Ce qui est remarquable dans ces quelques versets, c'est l'humilité de David. Et les deux vont de pair, parce que nous, si on se voit petit, on peut mieux voir certainement la grandeur de Dieu, la suprématie de Dieu et la suprématie dans notre vie. Verset 13. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je? Voyez cette humilité. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, il revient à ce thème. Éternel notre Dieu, c'est de ta main qu'il y a toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Il était conscient de la grandeur de Dieu. Il a vu sa main dans sa vie personnelle à maintes reprises, et il connaissait, c'est le cas de le dire, il connaissait sans Dieu. Alors, face à cet exemple de David, quelle devait être notre réaction face à la grandeur de Dieu? Ben, tout simplement, la même chose. Pas différent. C'est un privilège pour nous de connaître Dieu, de savoir, de connaître la grandeur de Dieu. Nous pouvons être reconnaissants comme David à l'égard de Dieu pour sa grandeur, connaître Dieu, sa grandeur, sa magnificence. Le fait d'être conscient que Dieu est souverain et qu'il devrait être souverain dans nos vies, qu'il est le maître suprême. Et de la même façon que David avait cette humilité face à son Dieu, la grandeur de Dieu, à nous aussi convient d'avoir cette humilité. Et j'espère que nous avons vu la main de Dieu dans nos vies parce que nous connaissons Dieu. Pas voir les conséquences, nous pouvons louer Dieu. C'est ce que David a fait. Il y a beaucoup de psaumes qui ont été écrits par David parce que David louait Dieu. Parce que David voyait cette grandeur, il voyait cette puissance. Il voyait la puissance de la création de Dieu, il voyait la force de Dieu. Donc ça, c'est un autre aspect, c'est notre réaction face à la grandeur de Dieu. Et puis un dernier point qui est aussi important, que j'ai voulu développer, c'est le devoir, ça aussi démontre, c'est ce qui démontre la grandeur de Dieu, c'est de voir le plan de Dieu en ce qui nous concerne. Parce que le plus que je réfléchis à ceci, le plus que je me rends compte à quel point c'est grandiose. Que Dieu prend des gens comme vous, comme moi, des gens qui connaissaient pas Dieu, qui n'avaient pas de connaissance de ces choses, et Dieu les prend et Dieu les transforme. Dieu nous transforme. Nous connaissons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26, 27 et verset 28. Je les cite, je vais pas m'y rapporter. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Donc Dieu prend nous, qui sommes des pécheurs, et il fait, comme c'est marqué dans Malachie chapitre 3, et dans la version Martin, il parle des plus précieux joyaux. Il fait de nous des gens qui sont sans force, des gens qui sont faibles. Il fait de nous des gens qu'il va appeler son plus précieux joyau. Dans le Siddur et le Rabbinat, on parle d'un trésor. Il nous façonne, il nous fait traverser des moments difficiles. Il change notre caractère grâce à son esprit. Il nous aide avec son esprit. Il nous pardonne, il nous transforme, il nous change et il nous utilise. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et moi je trouve ça magnifique. Qui d'autre que Dieu prendrait les gens qui sont faibles, parfois des rebuts de la société, pour les former, pour les utiliser et pour qu'ils deviennent ses joyaux. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Pour moi, ça démontre de la grandeur, la magnificence de Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte. Oui, comme Dieu nous regarde maintenant. Un sacerdoce royal, la nation sainte et un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui était perdu peut-être dans notre vie, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, parce que Dieu est miséricordieux avec nous. Tu as été miséricordieux. Ça nous donne, j'espère que ça nous a donné un aperçu de la grandeur de Dieu. une idée de la grandeur de Dieu, il est certain que nous verrons encore, parce que nous n'avons qu'un aperçu maintenant, mais nous verrons encore davantage la grandeur de Dieu à l'avenir. Il va y avoir la nouvelle après les 100 ans, la période de 100 ans, ce que nous pensons être 100 ans. Il va y avoir la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur terre, dimension de la ville qui sont de 2 000 km à peu près, avec des portes, des perles, murailles de 70 mètres, 70 mètres et avec toutes sortes de pierres précieuses. Et j'ai voulu terminer avec ce que M. Armstrong a écrit dans le Mystère du siècle, la page 303. Page 303, au milieu de page 303. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous donc faire ensuite? Ces passages révèlent que nous allons remplir la vie, de vie, pardon, des milliards de planètes mortes. Tout comme la vie remplit maintenant cette terre, nous allons créer selon les instructions divines. Nous allons régner pendant l'éternité. Apocalypse 21 et 22 montrent que la douleur, la souffrance et le mal ont disparu parce que nous avons appris à choisir la voie divine du bien. Ce sera une vie sans fin, pleine de réalisations, qui nous offrira des occasions illimitées et fascinantes de créer, au milieu du bonheur, de la joie que nous éprouverons envers ce que nous aurons déjà accompli. Nous ne nous lasserons jamais et nous ne nous fatiguerons point. Nous serons pleins d'énergie, comblés de joie, de force, de vitalité, d'exubérance et de puissance. Ça, c'est notre avenir. Et nous allons voir infiniment plus, davantage, la grandeur de Dieu à ce moment-là. À nous de continuer à s'inspirer, à continuer à rester fidèles à Dieu pour que nous puissions continuer à voir et à voir encore davantage la grandeur de Dieu.